Le passage, c'est Philippiens, chapitre 2, verset 19, à chapitre 3, verset 1. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments, pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière, et honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie, afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur.
Merci beaucoup pour cette lecture. C'est vrai que l'épître aux Philippiens, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein. Mais là, nous avons la semaine dernière considéré Timothée, parce que il y a deux personnes qui sont mentionnées dans ces quelques versets. L'un, c'est Timothée, et l'autre, c'est Épaphrodite. Voilà. Donc c'est le thème principal de cette épître, c'est Jésus-Christ. Si on veut dire la Bible tout entière est centrée sur Jésus-Christ. Et même, il y a une façon de dire, on dit la Bible est christocentrique. Hein, c'est quand on étudie avec les étudiants l'Institut biblique, on leur dit la Bible est christocentrique. Si vous tournez les pages de la Bible, vous trouvez Jésus-Christ à chaque page. C'est dans chaque verset, dans chaque parole, vous trouvez des indices sur Jésus-Christ, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Mais il y a des passages qui sont beaucoup plus centrés encore sur Jésus-Christ. Et l'épître aux Philippiens est une épître qui est centrée sur Jésus-Christ beaucoup plus que d'autres passages. C'est bon, si vous prenez l'épître aux Hébreux, je pourrais vous dire la même chose, hein. Et si vous prenez l'épître aux Colossiens, c'est la même chose aussi. Et si vous prenez l'épître aux Romains, nous en sommes aussi au même point. Mais c'est vrai que il y a une densité d'allusion à Jésus-Christ qui est impressionnante. Ici, dans ces quelques versets que Arnaud nous a lus, eh bien, il y a six allusions à Jésus-Christ. Vous avez eu l'impression que c'était un passage rapidement lu, mais il y a six fois, on parle de Jésus-Christ, d'une manière ou d'une autre. C'est pour vous dire combien cette épître nous parle de Jésus-Christ. Et c'est vrai qu'il y avait un problème dans cette église, mais les problèmes ne sont résolus que par Jésus-Christ. C'est dès que nous sommes confrontés à des difficultés, à des tensions, au péché, eh bien, il y a un recours, c'est Jésus-Christ. Et même quand Paul, dans ces quelques versets qui sont une transition entre ce qu'il a dit précédemment, qui est beaucoup plus théologique, il va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus pratique, il y a donc cette transition, il parle de Jésus-Christ, parce que le centre, c'est Jésus-Christ. Et même le début de ce chapitre 2, nous n'allons pas y revenir, on y a passé du temps, mais c'est du point de vue théologique, c'est un passage très important. Donc vous voyez qu'il y a une continuité dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, dans cette exposition du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, quand Paul parle de Timothée et d'Épaphras, il en parle par rapport à Jésus-Christ. Et c'est notre frère Timothée, eh bien, était un jeune homme. Il a agi d'une certaine manière à cause de Jésus-Christ. C'était parce que Jésus-Christ avait une certaine place dans sa vie, alors il a agi d'une certaine manière. Si Jésus-Christ n'avait pas eu la place qu'il avait dans sa vie, eh bien, il aurait agi d'une autre manière. Et même Paul va dire, hein, c'est le verset 21, tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Et il parle par rapport à Timothée. Il nous dit, Timothée, eh bien, regardez si vous tournez la chose, hein, dans une autre manière, eh bien, Timothée cherchait les intérêts de Jésus-Christ. Parce qu'il fait une comparaison entre Timothée et les autres. Et donc, en disant tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ, cela veut dire Timothée cherche les intérêts de Jésus-Christ et non pas ses propres intérêts. Et c'est le malheur de beaucoup d'églises et de beaucoup de chrétiens et de beaucoup d'œuvres chrétiennes où l'on cherche ses propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. C'est combien de choses sont faites pour des intérêts humains, pour des intérêts matériels même, financiers. Je me rappelle un jour, j'étais dans une librairie évangélique, je ne vous dirai pas le nom. Elle est très connue en France, voilà, je ne voulais pas aller plus loin. Paul, lui, il dit, tous, il dit, hein, tous en effet cherchent leurs propres intérêts. Donc il y a là porté un jugement sur des personnes. Hein. Mais je ne veux pas aller dans cette direction-là. Cette librairie, j'étais un jour là, et la libraire m'avait dit, les livres que vous n'avez pas vendus au stand biblique, vous les rapportez et on vous en donne d'autres l'année suivante. Donc, pendant des années, j'ai fait cela. Donc, c'était les livres du stand biblique. Il y avait des invendus, donc je les apportais et elle me donnait d'autres livres. Et cette fois-ci, c'était un mois de septembre, elle n'était pas là. Et il y avait un homme. Voilà. Et j'ai fait la connaissance du comptable, du grand responsable de cette librairie évangélique. Oh, quand il a vu les livres arriver, il me dit, mais vous croyez, qu'est-ce que vous pensez? Il m'a presque pris pour un malhonnête. Et je lui ai dit, mais quand même, monsieur, nous sommes des chrétiens. Mais je lui ai dit, mais quand même, il y a de l'argent et nous sommes une entreprise, c'est vrai, mais il y a de l'argent. Il faut payer, il faut acheter, il faut. Et l'argent, l'argent, l'argent prenait tellement de place. On n'en était plus à évangéliser, à donner une Bible ou à donner un livre à quelqu'un qui avait besoin de l'évangile, mais il y était question d'argent, de rapports financiers et de comment ça coûtait cher et comment, d'une manière, nous avions des frais, puis il y avait des auteurs, il y avait des impressions. Et il m'a raconté toute sa vie et j'ai appris qui il était. Voilà, j'ai appris qui il était de son nom. Et je savais le situer comme le grand responsable financier de l'entreprise, c'est pas autre chose. Et puis, dans son caractère et dans ses motivations, qui étaient loin d'être chrétiennes, j'aurais parlé à un épicier ou à un buraliste ou à un marchand de tapis, et j'aurais eu la même conversation. C'était exactement la même chose. Il n'y avait rien de chrétien dans tout ça. C'est seulement les mots, c'est tout. Et c'est pour vous dire, certains cherchent leurs intérêts et non pas ceux de Jésus-Christ. Quand on accomplit une action, on se dit, mais est-ce qu'elle va être à la gloire de Christ ou à la gloire de qui que ce soit ou de moi-même? Nous ne travaillons pas pour notre gloire. Nous ne travaillons pas pour notre enrichissement. Nous ne travaillons pas pour notre bien-être matériel. Nous travaillons pour la gloire de Christ, pour l'avancement du règne de Christ. C'est Christ qui est le centre. C'est Christ qui est la personne importante. Dans l'Église, tout tourne autour de Jésus-Christ. Si nous nous réunissons aujourd'hui, ce soir, pour une étude biblique, Le centre, c'est Jésus-Christ. C'est, je me rappelle, c'est mes petites histoires, hein. Je me rappelle un jour, j'étais avec des frères en Christ, et on a dit, oui, mais un tel, il n'est pas là. On dit, oui, il est allé dans une réunion pour se faire du bien. C'est une expression comme ça. Et elle disait bien ce que certains viennent faire dans les réunions. Ils viennent se faire du bien. Ils viennent pour leurs propres intérêts, pour leur propre égoïsme. Et je vais vous dire, ils ramènent ceux qui sont venus chercher, c'est-à-dire du bien. Ils ont été contents de la réunion, ils ont rencontré des personnes, ils se sont dit bonjour, ils ont parlé, ils ont eu une bonne conversation. Mais je peux vous dire, ils auraient été dans un club de pétanque ou de joueurs de clarinette, eh bien, ils auraient eu le même avantage. Parce qu'ils auraient rencontré des gens qui pensent la même chose, qui veulent faire les mêmes choses. Ils viennent là comme dans un club. Ils ne viennent pas pour Jésus-Christ, pour la gloire de Jésus-Christ. Quand je dis souvent cela, mais analysez un petit peu les choses. Arrêtez-vous, posez-vous des questions. On a besoin à un certain moment de se poser des questions. Qui motive ma vie? Qui dirige ma vie? Et quels sont mes objectifs? Quels sont mes projets d'avenir? Est-ce que Jésus-Christ a pris la bonne place dans vos projets, dans vos pensées, dans votre cœur, dans vos motivations? Même venir à une réunion de prière, venir à une étude biblique, on doit se dire, mais pourquoi je vais là? Est-ce que je suis vraiment à la recherche de Jésus-Christ? Est-ce que je veux marcher avec Jésus-Christ? Est-ce que je cherche à apprendre quelque chose de plus sur Jésus-Christ? Est-ce que je suis motivé par Jésus-Christ? Est-ce que c'est Jésus-Christ qui est ma vie, qui est mon souci principal? Est-ce que je le cherche, lui? Malheureusement, si vous voulez voir le problème et le défaut de nos églises au XXe siècle et XXIe siècle, posez le doigt là, il n'est pas ailleurs. C'est le problème, c'est que tout, n'importe quoi, a remplacé Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est plus le centre. Et malheureusement, j'ai assisté à des cultes qui, théoriquement, étaient là pour Jésus-Christ et qui étaient une grosse foire où on avait beaucoup de musique, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Mais on ne parlait même pas de Jésus-Christ. Il n'y avait même pas un cantique, si je peux appeler celui qui chantait des cantiques, hein, c'est où il était question de Jésus-Christ. Il parlait de la joie, il parlait du bonheur, il parlait, mais tout ça, c'est par rapport à eux, à leur égoïsme. Ce n'est pas Jésus-Christ. Ne pas se réunir, être dans un culte qui théoriquement est à Jésus-Christ et ne pas rencontrer Jésus-Christ. C'est un malheur. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, je vous avertis, cherchez Jésus-Christ. Mettez Jésus-Christ en premier. Et là, si vous ne le faites pas, on tombe sous ce verset 21. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Arrêtez-vous à ce verset, parce qu'il a son importance. Et on peut dire, oh, Paul a critiqué. Allez-y. C'est Paul a critiqué des gens qui étaient de braves gens, qui venaient des réunions. C'était même les premiers chrétiens. Et déjà, dans la première église, ce phénomène se retrouvait. Et quand il s'agit de Timothée, Paul dit, il ne cherche pas ses intérêts. Il cherche ceux de Jésus-Christ. Il prend à cœur vos intérêts. Votre église va mal. Et il a pris à cœur votre église. Il s'est soucié de votre église. Il a été en peine pour votre église. Il a souffert pour votre église. Il prie pour votre église. Voilà ce qu'était Timothée. Et dans ces quelques mots, on peut voir quel était le trait de caractère de ce jeune homme. C'était un jeune chrétien. Il avait peut-être même pas 30 ans. Eh bien déjà, il montrait l'envergure de ce qu'il pouvait être et de ce qu'il serait plus tard. C'est parce que, déjà, il cherchait Jésus-Christ et pas ses intérêts. C'est combien de gens cherchent dans le ministère, cherchent une situation, cherche une gloire, cherche la popularité, cherche à être vu, à être dans une position de direction, etc., 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 mais pas Jésus-Christ. C'est malheureusement, je l'ai vu souvent, des personnes qui ne cherchaient pas Jésus-Christ. Et dans le ministère, ils avaient une profession. Et j'ai rencontré cela dans tous les différents niveaux de personnes qu'on dit serviteurs de Dieu. Ça pouvait être des professeurs de faculté chrétienne, faculté de théologie. Ça pouvait être dans des églises, ça pouvait être dans des missions, ça pouvait être dans toutes sortes de choses, même des réunions d'enfants. Des personnes qui ne cherchaient pas les intérêts de Jésus-Christ. Et c'est un malheur, c'est une tristesse, c'est une souffrance que de voir que les choses en sont à ce point-là. Je vous l'ai dit, je vous le répète, cherchez Jésus-Christ, cherchez-le de tout votre cœur. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais vous dites, je suis chrétien, je suis né de nouveau, je suis réconcilié avec Dieu. Bien sûr, moi aussi. Mais combien de fois dans ma vie chrétienne, et je vous l'avoue, il m'est arrivé de perdre le cap et d'avoir une autre direction que celle de Jésus-Christ. Et de penser à un certain confort, à certains intérêts, à certaines choses. Voilà. Le problème, c'est de ne pas mettre Jésus-Christ à la première place. C'est cela. Et donc, vous avez... verset 22, vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi comme un enfant avec son père. Il a été mis à l'épreuve, c'est-à-dire que en tant que jeune chrétien, hein, comme un enfant avec son père, il était jeune chrétien. Paul était quelqu'un d'entièrement consacré à Jésus-Christ, et dans cette même épître, hein, il dit Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Une autre traduction dit « Christ est ma vie, Christ est mes gains pour la vie et pour la mort ». C'est dans une traduction plus ancienne. Ça, c'était la motivation de Paul. Quand Paul parle aux Éphésiens, il est profondément attristé de voir une église qui cherche ses propres intérêts, où il y a des disputes de personnes, des querelles d'intérêts, des querelles de choses qui n'ont aucune importance, qui n'ont aucune valeur éternelle. Et il leur parle de Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ le plus important. C'est lui qui doit être recherché, c'est lui qui doit être aimé, c'est lui qui doit être prêché, c'est lui qui doit soutenir notre vie. C'est sa parole qui nous encourage, ce sont ses instructions qui nous donnent la bonne direction. Quand vous lisez les évangiles, vous verrez le nombre de fois où le Seigneur Jésus-Christ parle de ses commandements. Et c'est surtout dans l'évangile de Jean. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous serez véritablement mes disciples. C'est pas enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est toujours Jésus-Christ. C'est lui qui doit être le centre. C'est lui qui doit être le plus important. Et vous avez ce jeune homme, eh bien, qui suivait Paul dans les mêmes motivations que Paul. Et il dit, il a été mis à l'épreuve. C'est-à-dire que si vous marchez avec Jésus-Christ et vous voulez vraiment, il va y avoir des épreuves. Et combien finissent par lâcher? Parce que le Seigneur Jésus a dit, mon joug est facile, il est doux et léger. Mais les ennemis sont nombreux. Et il a dit, je vous ai laissé comme des brebis au milieu des loups. Et c'est toutes les tensions, toutes les difficultés finissent par faire baisser les bras à beaucoup de personnes et dire, bon, je vais vivre ma petite vie chrétienne comme tout le monde et je ne vais pas faire plus d'efforts que ça. Je me rappelle d'un homme, vous avez peut-être jamais entendu parler de Dawson Trotman. Dawson Trotman était un chrétien américain. On pense qu'il a amené au salut à peu près 5 millions de personnes. Donc, vous ne le connaissez pas, mais c'est un nom glorieux. Je ne sais pas s'il y a une rue Dawson Trotman dans le ciel, mais avec 5 millions de personnes, s'il y a des rues qui portent des noms d'humains, je crois qu'il mériterait une rue. Et pas une impasse. Hein. Et même un boulevard. C'est le Dawson Trotman, quand il était jeune chrétien, a décidé d'apprendre des versets de la Bible par cœur. Il apprenait à peu près 10 versets bibliques par jour. Il était avec un autre copain et ils se sont encouragés. Tous les dimanches après-midi, ils se récitaient les versets qu'ils avaient appris dans leur semaine. Et puis, ils priaient. Et puis un jour, le copain, il a dit, écoute, ce dimanche, j'ai quelque chose à faire, je ne pourrais pas être là. Et puis le dimanche suivant, ça a été la même chose. Et puis finalement, Dawson Trotman s'est retrouvé tout seul. Mais tout seul, il a continué. Et il a non seulement continué, il a fait des progrès et il a inventé ce qu'on appelle la méthode de mémorisation de la Bible. Quand vous apprenez des versets par cœur sur des petites cartes, c'est lui qui l'a inventé. Donc, c'est lui qui. Et il a non seulement fait cela, mais dans la marine américaine, il y avait des chrétiens qui s'enseignaient les versets bibliques les uns et les autres. Et parce que cet homme, un jour, a mis Jésus-Christ à la première place. Le jour du Seigneur, c'était le jour du Seigneur. Le dimanche, c'est pour Christ. Il n'avait pas d'autres activités que Christ. Alors il se retrouvait avec des chrétiens pour prier, il avait avec des chrétiens pour réciter des versets bibliques, il était avec des chrétiens pour des cultes, parce qu'il n'était pas qu'à un seul culte, il avait des activités chrétiennes où Christ était le premier. Et un jour, on se dit, mais comment a-t-il réussi à être l'homme qui a amené 5 millions de personnes au salut? Mais tout simplement, un jour, jeune chrétien, il apprenait des versets par cœur pour suivre le Seigneur, pour marcher avec lui. Quand on dit Christ au centre, c'est Dawson Trotman, hein? C'est lui, c'est de lui que j'ai cette expression-là, parce que j'ai médité sur son fameux livre de méditation et de mémorisation des versets bibliques. Il y a même un groupe de deux versets qui s'appelle Christ au centre. Voilà. C'est quelque chose. Les choses n'arrivent pas par hasard. Il n'y a pas un chrétien qui devient efficace et qui est utile au Seigneur sans qu'un jour il l'ait décidé et qu'il ait choisi cette voie-là. Et de cette voie commence par mettre Jésus-Christ à la première place. Et c'est comme je vous dis. On se pose la question, est-ce que je mets vraiment Jésus-Christ à la première place dans ma vie? Et Timothée, eh bien, l'a fait. Il était avec Paul, il avait quelqu'un qui l'a enseigné, quelqu'un qui lui a montré comment on mettait le Christ à la première place, et il l'a suivi. Et comme un fils avec son père, il était disciple de Jésus-Christ, mais il a quelqu'un qui lui a enseigné Jésus-Christ, quelqu'un qui lui a enseigné l'amour de Christ, à mettre Christ à la première place, à vivre pour Christ, à marcher avec Christ. Et il a suivi. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il n'a pas suivi la voie des autres, qui eux cherchaient leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ. C'est un chrétien n'est jamais plus grand que Jésus-Christ. Il doit être toujours soumis à Jésus-Christ. On ne peut pas être en dehors de Jésus-Christ. On ne peut pas être séparé de Jésus-Christ. On ne peut pas vivre une vie parallèle à Jésus-Christ. C'est impossible. Tout cela, c'est la méthode de beaucoup de chrétiens, mais ce n'est pas la méthode biblique. La méthode biblique, c'est de marcher avec Jésus-Christ. Et donc, Paul dit, hein, comme un enfant, j'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur, hein, de nouveau, que moi-même aussi j'irai bientôt. Donc Paul parlait de ce Timothée, il parlait de Jésus-Christ, et il y avait ces chrétiens de Philippe qui, il dit, vous avez besoin d'avoir des nouvelles, parce que Paul était en prison, il ne pouvait pas se déplacer, eh bien je vais vous envoyer Timothée. Lui, vraiment. C'est l'homme de confiance. Ne croyez pas que parce qu'il est jeune, il manque de l'essentiel. Non, au contraire, c'est un homme éprouvé, un homme qui a vraiment été ce qu'il doit être. Et il dit, je vous l'enverrai. Dès que je verrai à peu près où j'en suis, Je vous l'enverrai pour qu'il vous donne des nouvelles. Alors, on ne sait pas comment cette épître aux Philippiens est arrivée à Philippe, hein, chez les Philippiens. Mais en tout cas, eh bien, Timothée est un des personnes possibles, des messagers, voilà, qui auraient pu apporter cette lettre. C'est parce que Paul dit, cet homme, eh bien, vous pouvez le recevoir, il ira vous voir, mais vous pouvez le recevoir parce que c'est vraiment pour vous un frère qui vous aime, un frère qui regarde vos intérêts, qui a à cœur vos intérêts. Ce n'est pas un courtisan, ce n'est pas quelqu'un qui va être chercher à vous, comment dire, vous dire, oh, tout va très bien, vous êtes de parfait chrétien, mais il vous aime tellement qu'il est même capable de vous dire la vérité sur votre propre vie et sur votre église. Et sur les choses qui ne vont pas. C'est Paul fait précéder une lettre. Et quand si Timothée vient pour dire quelque chose, eh bien, il aura quelqu'un qui voilà. Si Timothée vient, il aura les gens auront déjà été prévenus. Et puis. Verset 25, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite. Donc ça, c'est quelqu'un qui était venu. Hein. Il était venu de... Voilà. Oui. Épaphrodite, c'était l'homme qui avait apporté la lettre. Donc j'introduis juste Épaphrodite. On verra ça la semaine suivante. C'est Épaphrodite, oui. Je confonds Épaphrodite et Epaphras. Il y a les deux. Mais c'est celui qui avait amené les nouvelles des Philippiens. Il était venu et il avait dit, l'église des Philippiens, il y a des problèmes. Mais il était venu de la part des Philippiens, parce que les Philippiens étaient généreux, et ils avaient envoyé une somme d'argent pour Paul. Et cet homme était venu avec cette somme d'argent et l'avait donnée à Paul. Voilà, on va s'arrêter là.